Bonjour et bienvenue. Pour notre discussion du jour, on met un peu de côté les sources habituelles. Pas de grand journal, pas de livre d'histoire universitaire, non, on va plonger dans un document beaucoup plus original. Il s'agit du bulletin d'un club de collectionneurs de cartes postales.
C'est ça, le Cartoclub Aveyronnais. Ça peut paraître surprenant, mais la source est d'une richesse incroyable.
Absolument, on a le numéro 65 de janvier 2017 et à l'intérieur, il y a une étude vraiment passionnante de l'historien Jacques Miquel. Le titre, c'est « La commanderie templière et hospitalière de Sainte-Eulalie de Cernan ».
Et ce qui est génial, c'est que tout l'article est illustré avec des cartes postales d'époque. Ça donne une dimension visuelle très concrète à l'histoire.
Oui. On voit les lieux, les remparts. D'ailleurs, il faut saluer le travail de Guy Mazarge, le rédacteur en chef. La mise en page est superbe, le texte et l'image dialoguent vraiment.
Exactement. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer cet article, de comprendre l'histoire de ce lieu, sur le Larzac, comment on passe d'une petite église à un centre de pouvoir qui va durer plus de 600 ans. C'est fou.
On va voir comment la grande histoire, celle des croisades, a laissé son empreinte dans un petit coin du Rouergue. Alors, pour commencer, peut-être faut un petit rappel. Comment ces ordres de moines-soldats, les templiers, les hospitaliers, comment sont-ils nés?
Tout part d'un événement majeur à la fin du XIe siècle, l'appel du pape Urbain II. En 1095, il lance un appel à la chrétienté pour aller libérer Jérusalem. C'est le début de la première croisade.
Et ça marche?
Ça marche au-delà de toutes les espérances. Les armées des nobles prennent Jérusalem en 1099.
Et là, j'imagine, un nouveau problème apparaît.
Un problème énorme. Une fois Jérusalem prise, des milliers et des milliers de pèlerins se mettent en route. Mais les chemins sont hyper dangereux. Il faut les protéger, les soigner.
D'où la création de ces ordres.
Précisément. On a d'abord les hospitaliers. Eux, à l'origine, c'est vraiment une œuvre de charité, un hospice à Jérusalem. Le pape les reconnaît en 1113. Leur vocation militaire, elle, viendra un peu plus tard.
D'accord. Et les templiers?
Eux, c'était différent. Eux, c'était l'inverse. L'ordre est créé vers 1120 par un chevalier Hugues de Peille. Et leur mission, dès le départ, elle est purement militaire.
Protéger les pèlerins?
Protéger les pèlerins sur les routes. C'est leur unique but au début. Ils sont officiellement reconnus en 1128 au Concile de Troyes et ils deviennent très vite une force d'élite.
Donc on a ces moines-soldats, un peu le fer de lance des armées en Terre Sainte. Mais pour se battre si loin de l'Europe, il faut une logistique incroyable. De l'argent, des chevaux, des recrues.
Et voilà le mot-clé, la logistique. C'est là qu'intervient les commanderies. C'est le cœur de leur système. Partout en Europe, les rois, les seigneurs, leur donnent des terres, d'immenses domaines. Les templiers organisent ces terres en commanderies, qui sont des véritables exploitations agricoles. Le but, c'est de générer des revenus pour financer la guerre en Orient.
Un réseau financier et logistique, en fait.
Un réseau colossal.
Ce qui nous ramène à notre point de départ. Comment est-ce qu'ils atterrissent sur le plateau aride du Larzac? Pourquoi là?
Eh bien, par le même mécanisme. Les donations. Mais pour Sainte-Eulalie, les donations sont juste spectaculaires. Ça commence assez modestement, en 1152. Une abbaye leur donne l'église de Sainte-Eulalie. C'est un premier pied-à-terre.
Juste une église?
Au début, oui. Mais le vrai tournant, celui dont parle Jacques Miquel en détail, c'est 1159. Là, c'est le roi d'Aragon, qui est aussi le comte de Milliau, donc le seigneur local, qui leur donne non seulement la ville de Sainte-Eulalie, mais aussi toutes ses terres sur le Larzac.
Attendez, la ville entière et toutes les terres?
Toutes les terres qui lui appartiennent. Et ce n'est pas fini. Quelques années plus tard, en 1187, le comte de Rodez leur donne le droit de fortifier, de construire des villes, des églises. C'est un chèque en blanc.
C'est fou. Mais pourquoi? Ce n'est pas juste par piété, si? Qu'est-ce que ces grands seigneurs y gagnent?
C'est ça, la question clé. Et l'analyse de l'article est fascinante là-dessus. Il y a la ferveur religieuse, bien sûr. C'est prestigieux d'aider les défenseurs de la Terre Sainte. Mais il y a surtout un calcul politique très fin. Pour le roi d'Aragon, par exemple, installer les Templiers sur le Larzac, c'est implanter un allié puissant, riche, très bien organisé, sur un territoire un peu sauvage et difficile à contrôler.
C'est une façon d'asseoir son autorité, en quelque sorte.
Exactement. Ils stabilisent et développent la région grâce à eux. La commanderie, c'est autant un outil de pouvoir local qu'une base arrière pour la croisade. C'est un partenariat gagnant-gagnant.
D'accord, c'est beaucoup plus clair. Alors, une fois installés, comment ils font tourner l'économie, hein? Parce que quand on regarde les cartes postales de l'article, notamment une de la cavalerie, on voit ce paysage rocailleux, presque désertique.
C'est là qu'on voit leur intelligence. Ils ne vont pas contre la nature, ils s'adaptent. L'économie repose sur deux piliers très simples.
Alors?
D'abord, les céréales. Mais attention, pas n'importe où. Ils les cultivent dans les dolines.
C'est-à-dire?
Ce sont des sortes de cuvettes naturelles dans le plateau calcaire, où la terre est plus profonde, plus fertile, et elle garde l'eau. C'est une agriculture très ciblée.
D'accord. Et le deuxième pilier, j'imagine que c'est l'élevage, les moutons.
Exactement. C'est l'activité principale. Les immenses plateaux pierreux, les causses, c'est le paradis des moutons.
Ça va faire la richesse de la commanderie pendant des siècles.
La laine, le lait, la viande.
C'est l'animal roi du Larzac.
Mais pour l'élevage, il faut de l'eau. Et sur un plateau calcaire, l'eau, ça ne doit pas courir les rues. C'est le problème numéro un. L'article le détaille bien. Pour la commanderie elle-même, qui est dans la vallée, ils ont été très ingénieux. Ils ont capté une source. Mais sur le plateau, c'est autre chose. Il n'y a pas de cours d'eau. Donc l'eau, elle vient du ciel. Ils construisent des citernes, bien sûr. Mais surtout, ils utilisent et aménagent ce qu'on appelle les lavognes.
Les lavognes, ce sont ces mares qu'on voit sur certaines photos. J'en ai une en tête, une carte postale de la Couvertoirde, avec un troupeau.
C'est exactement ça. Ce sont des creux naturels, avec un fond argileux, donc imperméable. Elles se remplissent avec l'eau de pluie et servent d'abreuvoir. C'est tellement vital que c'est mentionné spécifiquement dans les actes de donation. Posséder une lavogne, c'était posséder la clé de l'élevage.
C'est une organisation impressionnante. Et qui faisait tourner tout ça? On sait combien de personnes vivaient là?
Oui, on a des détails assez précis. Au sommet, il y a le commandeur, le chef. Il est aidé par quelques frères chevaliers. Puis, il y a les frères sergents. Et ensuite, tout un personnel très spécialisé, un cellérier, l'intendant, quoi, un chambrier, des précepteurs des bêtes pour les troupeaux, et même un maître des forêts. On est loin de l'image du simple moine.
C'est une vraie administration, une entreprise.
Tout à fait.
Une PME qui tourne bien.
Mais l'histoire est rarement un long fleuve tranquille. J'imagine qu'ils ont connu des crises.
Des crises terribles. La première, c'est la guerre de Cent Ans. Après la défaite de Poitiers en 1356, c'est le chaos total dans le royaume. Le Larzac est ravagé par des mercenaires, les routiers, qui pillent tout sur leur passage.
Les villages devaient être complètement sans défense. C'est une période d'insécurité extrême. Mais c'est là qu'il va se passer quelque chose d'inattendu. Il faut préciser qu'à ce moment-là, les Templiers n'existent plus. L'ordre a été dissous en 1312 et tous leurs biens, y compris Sainte-Eulalie, ont été donnés aux hospitaliers.
D'accord, donc on parle d'un commandeur hospitalier.
Exactement. Et un personnage incroyable entre en scène, Bernard d'Arpajon. Et lui, il ne va pas subir, il va construire.
Ah ça c'est intéressant, il fait quoi lui?
Entre 1430 et 1445, il lance un programme de fortification systématique de tous les villages. Il transforme Sainte-Eulalie, la cavalerie, la Couvertoidée en véritable forteresse.
C'est de là que viennent les remparts qu'on voit encore aujourd'hui sur les cartes postales.
C'est son héritage direct. Ses remparts massifs, ses tours, c'est lui.
Mais comment il finance ça en pleine crise?
C'est là où c'est génial. Ce n'est pas juste un projet de défense, c'est un plan de relance économique. L'article cite des détails de contrat. Le commandeur paye une partie, 400 moutons d'or par exemple. La population participe aussi. Et pour attirer de nouveaux habitants dans ces villages sécurisés, il leur offre des exemptions d'impôts pendant des années.
Brillant. On relance par la sécurité et l'investissement.
C'est une politique très moderne, en fait.
Mais les ennuis ne sont pas finis. Après la guerre de Cent Ans...
Arrivent les guerres de religion au XVIe siècle. Une autre période noire. La région est déchirée. La cavalerie est prise par les protestants. L'abbaye voisine est brûlée. Les bâtiments de la commanderie sont décrits comme étant en piteux état.
Et pourtant, le lieu va encore une fois se réinventer.
Il va renaître, littéralement. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la paix est revenue. La mode n'est plus aux forteresses, mais aux résidences nobles et confortables.
Et les commandeurs, qui sont de grands aristocrates, vont transformer le lieu?
Complètement. Un certain Jean de Berny-Villève, vers 1640, fait des travaux fous. L'église, par exemple, était orientée vers l'est, comme toutes les églises.
Oui.
Lui, il inverse tout. Il déplace le cimetière qui était devant, il crée une grande place et il perce une nouvelle entrée monumentale pour l'église sur cette place. Il y construit même la grande fontaine qu'on voit partout.
Il a complètement redessiné le village.
Il a transformé une forteresse médiévale en un centre de vie élégant.
Et ça ne s'arrête pas là, si j'ai bien lu.
Non. Un siècle plus tard, vers 1720, un autre commandeur, Ignace de Clermont-Chaffette, va encore plus loin. Il s'attaque à l'extérieur. Il fait aménager un grand parc, une immense allée d'arbres, une terrasse, une pièce d'eau. Il crée même ce qu'il appelle une ménagerie.
Une ménagerie, hein? Avec des animaux exotiques?
L'article précise avec humour que c'était sans doute surtout pour les animaux de la ferme. Mais le mot montre bien l'ambition de l'époque. On est passé à une résidence aristocratique de luxe.
C'est un parcours incroyable. On part d'un centre logistique pour les croisades.
On passe par une seigneurie fortifiée qui protège sa population.
Et pour finir en résidence de plaisance, un petit Versailles local.
C'est une bonne image. Et tout ça s'arrête brutalement en 1792.
La Révolution.
La Révolution française. Les biens de l'ordre de Malte, les successeurs des hospitaliers, sont confisqués et vendus comme biens nationaux. C'est la fin d'une histoire de plus de 600 ans.
L'article de Jacques Miquel se termine sur une très belle phrase. Il dit que, malgré tout, l'esprit des chevaliers du Temple et des frères hospitaliers est toujours omniprésent en ces lieux.
Et c'est vrai, quand on visite, on le sent. Et ça amène peut-être à une dernière réflexion. Tout ce qu'on vient de raconter, c'est l'histoire factuelle, basée sur des archives, des contrats. C'est du concret.
Oui, du très concret.
Et pourtant, dans sa note de fin, Guy Mazars a ajouté des photos de couverture de livres grand public sur les Templiers. Et là, on a des titres comme « La malédiction des Templiers »,« Le trésor caché ».
On bascule complètement dans le mythe, dans le fantasme.
Complètement. Et c'est peut-être la question qu'on peut laisser en suspens. Pourquoi, alors même qu'on a une histoire locale si riche, si bien documentée et si fascinante que celle de Sainte-Eulalie, pourquoi l'imaginaire des trésors cachés et des secrets mystiques reste-t-il si puissant?
C'est une excellente question. Qu'est-ce qui fait que le mythe est souvent plus fort que les faits, même quand les faits sont aussi passionnants? Qu'est-ce que ça dit de notre rapport à l'histoire? Et peut-être de notre besoin de croire qu'il y a toujours quelque chose de caché derrière la réalité? Une pensée à méditer.